Salut tout le monde, c'est Xenia du Cercle des Traducteurs, la communauté et le podcast pour et par les traducteurs. Dans cet épisode, j'accueille Giuseppe qui va nous parler de la vie de traducteur indépendant et en particulier de comment il a fait pour décrocher ses premiers mandats. C'est parti. Salut Giuseppe.
Bonjour Xenia.
Bienvenue.
Merci.
Et merci à toi d'avoir accepté mon invitation à participer au podcast. Et si je t'ai proposé de venir nous parler aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie des traducteurs qui sont devenus indépendants, qui se sont lancés dans l'aventure de l'indépendance après leurs études et sans passer par la case du stagiaire ou du salarié. Est-ce que c'est correct comme résumé ?
C'est bien résumé, oui.
Ouais. Giuseppe, tu as fait des études en lettres. Et tu es traducteur depuis 2010 et tes langues de travail principales, donc tu traduis vers le français, et quelles sont tes langues sources?
Eh bien, quand je me suis lancé, c'était le japonais et le chinois, langue que j'avais étudiée à l'université. Mais aujourd'hui, je traduis essentiellement de l'anglais vers le français.
Ok. Donc en lettres, si on fait un petit retour en arrière, en lettres, tu as étudié le japonais et le chinois.
Oui.
Et encore une troisième matière.
Donc la photographie aux beaux-arts.
Ok, parce qu'à l'époque, moi j'ai aussi fait les études de lettres, et juste pour donner quelques explications à ceux qui connaissent moins bien les lettres, c'est qu'à l'époque, en lettres, on devait choisir trois matières, et on avait la possibilité de choisir une branche C, qui est une branche un peu secondaire, hors faculté. Avant qu'on parle de traduction, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui t'a motivé à suivre des études en lettres.
Eh bien, après le collège, j'ai fait un petit voyage à Tokyo 2 semaines. Et c'est ça qui m'a décidé à m'inscrire à l'université en lettres, en études japonaises. À l'origine, je m'intéressais plutôt à l'art. Donc, je pensais plutôt m'inscrire en histoire de l'art. Mais voilà, avec ce voyage, voilà, ça m'a donné envie plutôt d'approfondir ma connaissance du Japon. Et voilà, j'ai laissé tomber l'art et l'histoire de l'art.
Pour te tourner vers le japonais.
Voilà, oui.
Et est-ce que le japonais ou le Japon, c'était déjà quelque chose qui t'attirait avant, ou c'est un peu un voyage qui s'est fait comme ça, par d'autres circonstances, un peu par hasard ou...
Bah, disons que je faisais du karaté depuis un petit moment, donc qui véhicule un peu la culture japonaise. Et comme beaucoup de personnes de mon âge, voilà, j'ai grandi avec les dessins animés japonais. Donc par ce biais-là, j'avais déjà un contact avec la culture japonaise. Mais c'est justement deux camarades du collège qui avaient l'intention d'aller au Japon. Je me suis joint à ce projet. Et voilà, ça a un petit peu changé mon orientation.
Ouais, ok. Et le chinois?
Le chinois, je l'ai ajouté un peu par hasard. Mais voilà, j'ai croché aussi. Et il y a beaucoup de ponts entre les deux cultures, japonaise et chinoise, notamment au niveau de l'écriture. Hein, puisque en japonais, les caractères chinois. Voilà, donc j'ai commencé un peu comme ça par hasard, et là aussi j'ai été pris par cet exotisme, si on peut dire. Et voilà, j'ai continué jusqu'à la licence.
Et cette licence, tu l'as terminée en 2010, c'est ça?
2005.
2005, pardon.
Oui.
Donc, en 2010, ce sont tes débuts comme traducteur, hein, c'est ça?
Voilà, oui.
Ok. Donc en 2005, tu termines ta licence en japonais, chinois et photo. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
À ce moment-là, je, bien sûr, ayant fait des études en japonais, chinois, je voulais avoir un poste qui me permette de pratiquer ces langues. Et malheureusement, les opportunités étant rares, j'ai un peu pris ce qui se présentait. Donc voilà, j'ai été professeur, enseignant de français dans une école de langue privée, procès-verbaliste. Et voilà.
Donc, tu as fait plusieurs expériences de professionnelles tout en ayant à ce moment-là encore dans l'esprit d'utiliser le chinois et le japonais. Et
Oui.
comment de cette situation, progressivement, tu as, ou pas progressivement, je ne sais pas, tu as commencé à penser, à te diriger vers la traduction?
À vrai dire, c'est grâce ou à cause, selon le point de vue, de ma femme, qui est diplômée de la faculté de traduction de Genève. Donc, c'est elle qui m'a poussé à me lancer dans cette voie. Voilà, avec mes langues justement étudiées à l'université, japonais et chinois.
Et comment, alors, à ce moment-là, tu te dis, bon, alors je vais essayer la traduction avec le chinois et le japonais. Quelles sont les premières démarches que tu as faites dans ce sens?
Alors, je me suis d'abord inscrit sur le site de traducteur prose.com, site international.
Oui. Est-ce que
Et.
tu peux juste, excuse-moi, est-ce que tu peux juste un peu présenter ce site pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que je ne sais pas, en Suisse, si on connaît, si tout le monde connaît bien ce site, en fait. Prose.com.
Il me semble que c'est le premier site international qui réunit donc des traducteurs et des agences de traduction. Donc sur ce site sont publiées des annonces pour divers mandats. On peut bien sûr donc s'inscrire pour différentes combinaisons de langues. Et voilà, donc on peut répondre à des annonces, on peut contacter des agences de traduction. Et aussi une fonction qui est assez pratique, c'est le Blue Board, qui permet de voir les commentaires, les notes des traducteurs qui ont travaillé avec des agences,
D'accord, oui.
ce qui permet de, voilà, d'éviter de travailler avec des agences qui payent mal ou qui payent pas.
D'accord. Ça fait un filtre un peu. C'est un peu comme les commentaires dans TripAdvisor, comme ça. C'est un peu
Voilà,
ce principe-là.
c'est un peu ça. C'est un peu la fonction que j'utilise le plus actuellement quand je reçois une demande.
D'accord, ok.
Le réflexe de regarder quelle est la note, les notes données à l'agence.
Est-ce que le site est payant?
Oui, c'est.
D'accord.
Alors, j'ai plus le prix exact, mais c'est une centaine de dollars par année.
D'accord, ouais. Et est-ce
Bon, après, il y a.
que... Oui, dis-moi.
On peut se. Il y a, je crois, une. Comment dire? On peut s'inscrire gratuitement, mais ensuite pour bénéficier de toutes les fonctions, et notamment
Oui.
le Blueboard, il faut donc payer une centaine de dollars par année.
D'accord. Et mon impression, justement, c'est que c'est un site où il n'y a pas forcément beaucoup de clients suisses. Est-ce que c'est ce que tu as constaté aussi ou pas forcément? Donc, si j'ai bien compris, les clients, c'est essentiellement des agences. Un
Voilà,
peu
c'est
des
des
agences. D'accord.
agences. Mais en fait, assez rapidement, donc je me suis inscrit en 2010 et assez rapidement, j'avais des demandes pour des traductions anglais-français-suisse.
D'accord.
Ce qui est assez, ça m'a un peu surpris parce que voilà, moi, je n'avais pas l'anglais à la base comme langue de travail.
Oui.
Et voilà, et la plupart des demandes que j'avais, c'était justement des traductions de l'anglais vers le français-suisse.
D'accord. Ok, intéressant, ouais. Et donc, toujours des agences, hein, c'est ça.
Voilà, sur ce site, c'est principalement des agences, donc
Ouais.
bien sûr, qui prennent une commission. Donc comment dire, les tarifs sont pas qu'on peut demander sont pas très élevés.
Oui, c'est pas les tarifs les plus intéressants, on va dire, mais disons que c'est une manière de se faire une première expérience et d'avoir une idée de ce
Voilà,
à quoi
pour
ressemble le marché. Ouais.
moi qui n'avais pas d'expérience en effet de la traduction, ça m'a aidé à entrer sur le marché.
Ok. Et à part Proscom, qu'est-ce que tu as fait comme démarche encore?
Je consultais quelques autres sites intéressants. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait par exemple le site de la FTI, par exemple, où là il y a quelques annonces. Ensuite aussi, je consultais régulièrement le site asfored.com. Qui est en fait un site qui publie des annonces d'éditeurs ou de postes dans le domaine de l'édition.
D'accord. Donc, la traduction littéraire ou pas forcément?
Alors, grâce à ce site, j'ai entre guillemets décroché mon client principal actuel, hein, éditeur
D'accord.
de guides touristiques.
Ouais.
Et aussi, j'ai pu aussi traduire deux romans pour Bragelonne, la maison d'édition Bragelonne.
OK.
Voilà.
Ouais.
Donc, site assez intéressant à suivre.
Et est-ce que dans tes démarches, il y a des choses qui n'ont vraiment pas fonctionné du tout?
Alors bien sûr, sur prose.com, j'ai envoyé des milliers de mails. Je suis parti à la pêche comme ça.
Oui.
Et bien sûr, sur un millier d'emails, il y en a peut-être deux, trois qui m'ont répondu. Donc c'est clair
D'accord.
que ça marche pas à tous les coups. Il faut être patient.
Donc, si j'ai bien compris, tu as essentiellement utilisé Internet finalement, par prose, par le site pour les traductions dans le domaine de l'édition, le site de la faculté de traduction d'interprétation à Genève. Est-ce que tu as aussi utilisé des moyens entre guillemets plus traditionnels? Est-ce que tu as appelé des entreprises, fait des offres spontanées, ce genre de choses?
Non, pas vraiment.
Pas
Ouais,
vraiment. Ok.
essentiellement par voie
Ouais,
numérique.
c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des personnes que tu connaissais qui t'ont recommandé ou c'était vraiment tes démarches se sont faites 100% par voie numérique?
Bon, encore une fois, comme ma femme est diplômée de
Oui.
traduction, j'ai un peu bénéficié de son
Ah
réseau
oui, ouais.
et de ses conseils. Donc voilà, essentiellement, c'est ce réseau qui m'a aidé
D'accord.
à orienter.
Ouais. Donc c'était à la fois les sites internet et puis par ton épouse, le réseau que tu avais finalement.
Voilà, oui.
Et aujourd'hui, tu travailles pour quel type de client?
Donc essentiellement pour un éditeur de guide touristique.
Et c'est anglais-français, hein, toujours.
Anglais-français,
Ouais,
oui.
ok, ouais.
Voilà, et sinon, ponctuellement, bon, je peux encore travailler pour des agences de traduction, mais sinon aussi pour deux clients directs qui sont la Fondation Solar Impulse en Suisse.
Oui.
Et la Commission électrotechnique internationale, également en Suisse, à Genève.
D'accord, ouais.
Mais c'est plus ponctuel.
Oui. Donc, tu as, disons, c'est ces trois clients principaux, avec un qui est qui l'emporte, disons, les guides touristiques,
Voilà.
c'est ton activité principale aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et on me demande souvent, mais la traduction, on peut en vivre. Et toi, qu'est-ce que tu réponds?
Alors, qu'est-ce que je réponds? Ça dépend où on habite.
Oui.
Le fait que j'habite en France, ben, ça m'aide un peu, puisque voilà, vu que aussi mon client principal est français,
Oui.
donc j'ai un revenu, on va dire, plutôt français.
Oui.
Donc je peux vivre, on va dire, bien en France. Mais c'est vrai qu'avec le même revenu en Suisse, je pense que ce serait assez compliqué.
Oui, mais ça, c'est du fait aussi que le client est français. Mais,
Voilà, oui.
ouais. Et puis, la question que je voulais aussi te poser, c'est qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, pour être un bon traducteur indépendant en particulier?
Alors, je pense qu'il faut être un bon traducteur déjà, parce
Oui,
que
ouais, c'est
donc
vrai,
moi,
ouais.
j'avais pas vraiment d'expérience, j'avais pas de diplôme en tant que tel dans la traduction.
Ouais.
Mais la chance qu'on peut avoir, c'est de faire ses preuves grâce à des tests. Presque tous mes clients m'ont fait passer un test.
D'accord, ouais.
Et donc, parfois, c'est presque plus important le résultat du test que plutôt l'expérience ou les diplômes.
Oui.
Donc, je pense, voilà, c'est avant tout ça. Après, bien sûr, il faut s'organiser puisqu'on est seul. Après, si on a qu'un seul client, ça facilite les choses. Si on en a plusieurs, il y a un travail en plus de faire les factures,
Ouais, de gestion, et ouais.
de gestion, etc.
Ouais.
Mais voilà, il y a
Et
aussi des avantages.
cette partie, juste un petit mot sur cette partie administrative, Dans ton cas, est-ce qu'elle est très importante ou pas? Ou comment tu gères ça, les factures, justement?
Donc depuis que je suis traducteur principalement pour cet éditeur de guide, je reçois des contrats. Donc
D'accord.
je les signe, voilà, ensuite je les reçois signés par l'éditeur. Donc voilà, pour moi, de mon côté, il y a très peu de démarches à faire. Mais c'est vrai que quand à l'époque où je travaillais pour des dizaines
Oui.
agences de traduction, ben voilà, ça veut dire des factures pour chaque agence, voilà, bien garder des traces de toutes les traductions qu'on a faites, etc. Donc là, ça me demandait plus de travail.
Ouais. Et c'est quelque chose, ben, tu avais un système, tu faisais avec un tableau Excel ou pas particulièrement?
Oui, je répertorie tous mes mandats dans un tableau Excel. Après, j'avais des modèles pour les factures et les devis.
Oui, c'est bien ça. C'est une bonne idée.
C'est pas mal.
Oui. Est-ce qu'il faut encore autre chose, à ton avis, pour être un bon traducteur indépendant, une autre qualité? Qu'est-ce qui le distinguerait éventuellement d'un traducteur salarié?
Je pense qu'il faut avoir une certaine discipline, bien
Oui,
sûr, parce que
ouais.
si, comme moi, on travaille à la maison, avec une connexion Internet, bon, on peut être tenté de regarder, je ne sais pas, Facebook, des vidéos. Donc voilà, avoir cette discipline de se dire, pendant les heures de travail, je ne fais rien d'autre. Voilà, je pense que ça, c'est important, puisque justement, il n'y a pas vraiment de barrière entre la vie privée et professionnelle.
Est-ce que
Donc,
toi, ouais, est-ce que toi, tu as aménagé un bureau séparé, tu as un espace de travail séparé justement de ce qui est vie privée chez toi ou pas particulièrement?
Alors oui, j'ai mon poste de travail. Après, vu que c'est un espace décloisonné, je ne peux pas vraiment comment dire, me
Isolé,
séparer
oui.
voilà, de ma famille, des autres pièces de l'appartement, mais voilà, j'arrive quand même à rester dans ma bulle. Je suis assis à mon poste.
Et à ton poste, qu'est-ce qu'il y a comme équipement, comme outil, comme dictionnaire, ou qu'est-ce que tu utilises?
Alors, bien sûr, Internet.
Oui.
Ensuite, quelques logiciels, par exemple un dictionnaire français, Le Robert. Ensuite, dictionnaire anglais-français, j'ai Araps Shorter. Et Le Grand Robert et Collins. Donc ça, c'est un peu mes dictionnaires principaux. J'ai aussi un dictionnaire papier, le guide anglais-français de la traduction
Oui.
de Mirtens.
Ouais, il me semble que celui-ci, je l'ai vu à la bibliothèque de ce qui était Letty à l'époque. Ouais. Ça
Oui,
me
il est
dit
assez
quelque chose.
intéressant. Et à part ça, j'ai aussi un dictionnaire des co-occurrences.
Oui, ça c'est super.
Après, sur le Robert Correcteur, il y a aussi beaucoup de co-occurrences. J'utilise aussi parfois un dictionnaire des analogies et le Grévis, parfois si j'ai des doutes sur la grammaire. Essentiellement, ouais, ce sont ces ressources-là. Et après, bien sûr, Internet, voilà, que ce soit des dictionnaires ou autres.
Est-ce que tu utilises par exemple Lingui
Alors, oui,
pour
j'utilise
donner
Lingui.
des pistes? C'est pas mal. Ouais. Et
Et
est-ce que
aussi,
oui, dis-moi.
le système de traduction automatique aussi de
DeepL,
l'entreprise
non? Ah,
DeepL.
ok. Oui, oui.
Qui est pour moi le meilleur outil de traduction automatique, même
Oui.
supérieur à Google,
Oui.
voilà, qui est très intéressant. Alors, il est gratuit si on l'utilise en ligne. Après, on peut aussi payer pour l'utiliser dans les outils de traduction,
Les
comme
CATOO, les mémoires de traduction, ouais, les
les
mémoires
mémoires de traduction.
d'accord. Et toi,
Ah oui,
tu
j'ai oublié
utilises,
d'ailleurs.
oui.
Oui, pardon, j'oubliais justement, j'utilise aussi. Donc SDL Studio 2017, donc qui permet d'utiliser des mémoires de traduction.
Bon, c'est assez utile aussi pour les guides, quoi. Il y a quand même des
Voilà,
tournures, pas mal de répétitions, des choses comme ça.
et les titrailles par exemple, voilà, ça c'est très utile. Ouais.
Et tout à l'heure, tu nous as parlé de l'importance de la discipline. Comment toi tu structures tes journées? Est-ce que tu as un horaire fixe ou non? Comment tu fais?
Eh bien, généralement, je travaille de 8h à midi et de 13h à 17h.
Donc c'est les horaires classiques finalement de bureau.
Voilà, mais justement, le fait d'être indépendant permet, si il y a, je sais pas, je dois faire des courses, aller chez le médecin, voilà,
Oui.
d'adapter mes horaires.
Est-ce que ça t'arrive de travailler le week-end?
Oui, assez souvent, en fait, à vrai dire. Voilà, parce que c'est y a des libertés, bien sûr, le fait de travailler en indépendant, mais voilà, il y a un délai à tenir. Et après, pour le tenir, parfois, il faut travailler tard le soir ou le week-end. Voilà,
Donc, assez
c'est un
régulièrement.
inconvénient. Alors, on va dire que, en tout cas, un week-end par mois, c'est vrai que je travaille.
Et quand tu travailles, c'est pour terminer, pour tenir un délai, ou tu travailles vraiment 8 heures par jour aussi le week-end où tu travailles, ou c'est juste quelques heures pour terminer quelque chose?
Bah, ça dépend justement. Si c'est vrai que si c'est un délai que je dois tenir, oui, ça peut être 8 heures par jour également le samedi, dimanche, oui.
Et si on parle du côté administratif, à quoi il faut penser quand on se lance comme indépendant, comme traducteur indépendant? Quelles sont les démarches administratives à effectuer?
Eh bien, je me suis inscrit à l'OCAS.
Oui,
Donc,
dis-nous ce que c'est.
alors, qu'est-ce que c'est déjà?
C'est attends, c'est
L'office
l'office. En gros, c'est la caisse de compensation du canton
cantonal
de Genève. Voilà.
des assurances sociales. Voilà.
Exactement, oui. C'est pour les
Donc,
jeunes, moi.
voilà, oui, donc je me suis inscrit à l'OCAS et donc depuis tous les trimestres, je verse des cotisations. Pour l'AVS, l'AI, etc., toutes les cotisations sociales.
Parce que quand on est indépendant en Suisse, on a l'obligation de payer soi-même ses cotisations AVS, AI. Donc l'entièreté de ces cotisations, alors que quand on est salarié, à peu près la moitié des cotisations est payée par l'employeur et l'autre moitié est prélevée sur le salaire de l'employé. Et donc ça, et c'est vrai que c'est une démarche assez importante parce qu'il y a des clients qui exigent cette attestation comme quoi on paye nous-mêmes nos cotisations avant de nous donner des mandats, en fait.
Ah voilà, oui, bien sûr.
Les plus grandes entreprises, parce qu'ils sont
Pour les
contrôlés,
multinationales.
sinon.
Exactement, oui. Donc j'ai dû fournir ce document assez régulièrement.
Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore, des démarches qui sont importantes?
Bon, après, il faut bien sûr déclarer ses impôts. Donc voilà, bien tenir à jour. Tout ce qu'on fait, il faut vraiment le consigner. Voilà. Et justement, faire ce travail en amont pour ensuite, pour la déclaration, que ce soit plus rapide.
Oui, parce que ça, c'est un gros travail,
Voilà, oui.
Quels sont, à ton avis, les avantages? On a déjà parlé un peu de la flexibilité des horaires, mais quels sont pour toi les autres avantages du statut d'indépendant? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Bah, le fait de travailler à la maison, c'est bien sûr qu'il n'y a pas de trajet à faire. Voilà, dès que je finis mon travail à 17h, à 17h01, voilà,
À la maison.
je suis déjà à la maison. Ouais.
c'est ça.
C'est un avantage assez considérable. Après, bon, là, on revient sur la flexibilité, le fait de pouvoir s'organiser comme on veut. Après, on n'a pas de patron, mais on a des clients qui peuvent être aussi exigeants, donc on ne gagne pas forcément au change.
Un autre type de
Ouais.
rapport, on va dire. Ah non, tu
Voilà,
comprends.
c'est notre
Je comprends.
rapport.
Et est-ce que tu vois des désavantages?
Là aussi, par rapport à un travail salarié où voilà, on a des horaires fixes, où il faut faire ses horaires plutôt que de, enfin souvent, plutôt que d'atteindre un objectif
Oui.
pour la semaine, pour la journée. Et voilà, là, en gros, il y a un travail à faire, il faut le faire. Peu importe si c'est 17h, 18h, 19h, 20h, il faut terminer dans les temps.
Oui. Ok. Mais en même temps, moi, je me dis souvent aussi l'inverse, c'est-à-dire quand tu travailles plus, tu gagnes plus aussi. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en tant que salarié, s'il y a des fois où tu travailles plus, ben, t'es pas forcément toujours payé plus ou pas tellement plus, tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est vrai que ça peut être une motivation.
Ouais,
Après,
il y a des deux aspects.
dans mon cas, c'est pas forcément à propos. En tout cas, voilà, je trouve intéressant. Voilà, je trouve plus intéressant de faire le travail que je fais en indépendant que peut-être un travail salarié
Oui.
qui serait beaucoup moins intéressant.
D'accord, ouais. Moi, je ne vais pas dire le contraire. J'aime beaucoup le statut d'indépendant à cause de la flexibilité et parce que ça permet de travailler depuis partout dans le monde aussi avec Internet.
C'est juste.
Donc, c'est vraiment une possibilité dont je profite beaucoup. Et pour terminer cette interview, je voulais te demander si tu avais un mot favori dans une des langues que tu as étudiées, des langues sources que tu as étudiées. Un mot que t'aimes
Ah.
bien. Moi
J'ai pas réfléchi à la question.
aussi, non.
Bah, disons en chinois tsuyo, en japonais le même mot jiyu qui veut dire liberté.
Ah, c'est beau ça. J'aime beaucoup. Et une toute dernière question. Si t'étais pas traducteur, tu serais quoi?
Là, justement, j'y réfléchissais
Oui,
récemment.
oui.
À me lancer dans la production de tofu.
Ouais. Ben oui.
Pourquoi pas?
Mais comment ça t'est venu?
Ah, parce que je fais mon propre tofu depuis quelques mois
D'accord.
et que aussi depuis aussi quelques temps j'essaye de consommer en vrac sans emballage.
Oui.
Donc voilà, je me dis qu'un créneau
Ouais.
du tofu sans emballage.
Intéressant. Bien.
Voilà.
Bah écoute, merci d'avoir répondu à mes questions.
C'est
Donc
un
tu étais douze
plaisir.
douze, traducteur anglais-français, qui a étudié le chinois et le japonais et peut-être futur producteur de tofu. Voilà.
Peut-être.
Merci.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. Sache qu'il y a du nouveau de mon côté, c'est que j'ai changé la formule du cercle des traducteurs qui est devenue la traduction avec Xenia, avec un tout nouveau site web qui s'appelle d'ailleurs avecxenia.com. Tu trouveras mon offre de non-formation, tu verras ce que c'est dans le site, mon offre de coaching et aussi le formulaire pour t'abonner à la newsletter que je publie à peu près, disons, deux fois par mois, si ça te dit. Alors à bientôt!